Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Aujourd'hui, on pousse les portes des cabinets ministériels pour comprendre à quel point les détachements de fonctionnaires sont au cœur de la machine.
Nous sommes le lundi 15 mai, je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Détacher des fonctionnaires de l'administration vers des cabinets ministériels est une pratique très répandue chez nous. Les ministres vont chercher des fonctionnaires ou des travailleurs d'entreprises publiques pour qu'ils travaillent au sein de leur cabinet.
Mais combien de cabinetards sont-ils détachés de cette façon? Qui paye leur salaire et où sont-ils les plus nombreux? Xavier Counaz du service enquête et Martine Dubuisson du service politique ont dégainé leur téléphone et leur tableau Excel pour établir le bilan chiffré des détachements dans les 50 cabinets du pays. Bonjour Martine.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Xavier.
Bonjour.
Martine, vous êtes avec nous par téléphone. Pour commencer, en fait, qui sont ces personnes détachées?
Ce sont des personnes qui travaillent, par exemple, dans une administration, dans un parastatal, dans une entreprise publique autonome et qui, pendant en général la durée d'un ou plusieurs mandats ministériels, sont détachées dans un cabinet ministériel, c'est-à-dire dans l'équipe qui travaille pour un ministre et qui vont donc, durant ces, par exemple, 5 ans de législature, travailler pour ce ministre et non plus pour leur administration, leur parastatal, leur entreprise publique autonome.
Mais ils gardent leur contrat auprès de leur premier employeur, en fait.
Ils restent théoriquement employés par leur premier patron.
Et qu'est-ce qu'ils font? Quels sont les métiers qui sont détachés comme ça dans des cabinets?
Ils peuvent faire plein de choses, en fait. On a tous les conseillers techniques sur le fond, où évidemment on va chercher l'expertise de l'administration ou d'un organisme public où on cherche un profil précis et on le prend dans son cabinet. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a aussi des personnes détachées pour exercer toutes les fonctions opérationnelles dans un cabinet, le secrétariat, l'accueil, le traitement des courriers, des chauffeurs, des profils très très variés parmi tous ces postes détachés dans les cabinets ministériels aujourd'hui.
La démarche de vouloir faire le bilan en fait de tous ces détachements au sein des cabinets du pays s'inscrit évidemment dans le contexte de questions autour de la bonne gouvernance de Bipost. Vous pouvez nous rappeler le contexte?
Alors sur Bipost, oui, il y a eu une polémique, on va dire, depuis quelques jours sur la composition du cabinet de la ministre Petra de Sutter, vice-première au fédéral. On s'est rendu compte que 2 de ses collaborateurs étaient détachés de Bipost, entreprise publique cotée en bourse, et qui travaillaient donc pour le compte de la ministre en étant toujours payés par Bipost. Petra de Sutter étant elle-même la ministre qui a la tutelle sur Bipost. C'est donc reposer toutes ces questions d'un côté du conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut travailler dans le cabinet d'un ministre qui a la tutelle sur une entreprise qui nous emploie? Et puis de l'autre, la question même de ce détachement, donc de ces gens qui sortent, en l'occurrence ici d'une entreprise publique, pour travailler dans un cabinet ministériel. C'est ça qui nous a donné l'idée de se dire, tiens, on referait bien un peu un état global de la situation sur le détachement dans les cabinets ministériels, tout cabinet confondu.
Ce qui nous permettait aussi de rappeler les règles de base et de faire un peu les détacher pour les nuls.
Et comment vous avez fait pour récolter toutes ces données? Et
disons qu'on a pris un peu notre courage à deux mains. Il y avait 50 cabinets, en tout cas on en a identifié 50 entre les cabinets des ministres et secrétaires d'État au fédéral, dans les 3 régions et en communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. On a appelé tout le monde, ou envoyé un mail pour commencer, avec les mêmes questions. Combien y a de personnes chez vous? Combien sont détachées? Combien sont payées par le cabinet ou par l'administration qui les détache? Et donnez-nous la liste de toutes les institutions d'où viennent ces gens. On a commencé il y a une semaine, quasi jour pour jour.
Et Xavier a même eu le courage, en fin de parcours, d'appeler les 9 cabinets du gouvernement flamand aussi, il faut le noter, pour certaines comparaisons entre régions.
Il y a des gens qui ont été très transparents très vite. La plupart des gens nous ont réservé un bon accueil, il faut le dire. Sur la forme et sur le côté, c'était les vacances, machin. Il a fallu un peu parfois relancer, on va dire, mais Martine en a plus l'habitude que moi encore. Mais à la fin, on a le compte est bon, quoi. On a eu les réponses de tout le monde, les 50 cabinets. Et au total, ça représente plus de 2000 collaborateurs de cabinet.
Et sur ces 2000 collaborateurs, vous avez identifié combien de détachés?
48% d'entre eux sont des personnes détachées. Ça représente 1052 agents ou collaborateurs de cabinet.
Donc un travailleur dans un cabinet sur deux est en fait détaché.
Oui, c'est ça. Allez, hein, 48%, un tout petit peu moins si on doit être précis. Globalement, c'est la conclusion. Je crois que si vous devez retenir un chiffre, c'est celui-là.
Vous avez pu établir un podium. Qui utilise le plus ces travailleurs détachés?
C'est l'avantage d'avoir compilé ces chiffres cabinet par cabinet, niveau de pouvoir par niveau de pouvoir. On peut s'amuser à faire une série de classements. Bon, on vous renvoie sur notre site dans le journal. Vous allez voir une série d'infographies, mais je vous donne 2-3 infos comme ça. Par exemple, sur le podium des personnalités, on voit que c'est chez Mathieu Michel que proportionnellement, il y a le plus de détachés. Mathieu Michel, secrétaire d'État, notamment à la digitalisation au niveau fédéral. 19 de ses 21 collaborateurs sont détachés. Ça fait plus de 90%, donc nettement au-dessus de la moyenne. On voit aussi que plus de 7 collaborateurs sur 10 sont détachés dans les cabinets, par exemple, de Ludivine de Donder, Christophe Collignon en Wallonie pour deux socialistes, Alexia Bertrand également, et j'oublie Vincent Van Peteghem. Comme ça, je vous ai cité tous ceux qui sont au-dessus de 70%. Et peut-être par partie, parce qu'on l'a fait aussi, on se rend compte que eh bien, c'est au CDNV, dans les cabinets des ministres CDNV, qu'on a la plus grande proportion de travailleurs détachés. On n'est pas loin des 60%. Là où d'autres voilà, le font un peu moins. Hein. Le dernier, par exemple, du classement, allez, je donne un dernier petit chiffre, vu que j'aime bien, c'est le ministre flamand Bart Somers, OpenVLD. Là, on voit que lui, il n'y a que 7 collaborateurs détachés sur un cabinet de 42 personnes. Donc, ça fait à peine 16-17%. Voilà, c'est lui qui est en fin de classement. On se rend compte aussi que la réalité n'est pas du tout la même cabinet par cabinet en réalité.
Martine, pourquoi les partis aiment autant ce système de détachement ?
Alors, il y a, j'aurais envie de dire, la forme et le fond. Mais sur le fond, les ministres estiment pouvoir aller chercher une expertise technique dans l'administration et avoir besoin de profils spécifiques pour les compétences dont ils ont la charge. Ça leur permet aussi d'avoir des gens qui, dans les administrations d'origine, ont des contacts avec leurs anciens collègues, ce qui peut faciliter le travail aussi. Et alors, de façon plus prosaïque, bien sûr, dans les administrations, quand on prend un fonctionnaire d'une administration et qu'il devient collaborateur ministériel, il reste payé par son administration, ce qui évidemment soulage le budget du dit cabinet. Et pour son travail au cabinet, il reçoit une prime supplémentaire qui est variable, il n'y a pas de barème pour ça. Donc en fonction du parti ou du cabinet, on aura une prime, par exemple, du côté vice-premier libéral, c'est aux alentours de 500 euros. Dans d'autres cabinets, ça peut être entre 200 et 500 euros. Évidemment, ça dépend du profil de la personne qu'on est allé chercher, de son ancienneté, de son expertise et de à quel point le ministre a envie d'avoir cette personne, évidemment, dans son cabinet. Mais donc, c'est évident que le financement de ses collaborateurs est une raison pour laquelle, très importante pour laquelle on va les chercher, et notamment pour la secrétaire d'État, Alexia Bertrand, qui en a beaucoup. Il faut savoir qu'elle est secrétaire d'État au budget. Comme secrétaire d'État, elle a un plus petit cabinet que les ministres, mais que comme elle est secrétaire d'État du budget, elle doit aller dans plein de réunions, dans plein de cairns et suivre, finalement, un peu toutes les matières. Elle a un petit cabinet pour un mandat plus large et avoir des détachés pour son enveloppe budgétaire, des détachés qui ne coûtent pas cher ou qui ne coûtent pas grand-chose, c'est intéressant.
Si on a autant de détachés, c'est finalement parce que ça ne coûte pas très cher, c'est ça ?
Oui, je dirais même qu'il y a une forme de mirage ou de petite tromperie budgétaire là derrière, c'est-à-dire qu'on a voulu dire on réduit le coût des cabinets, ce qui est vrai. Factuellement, on a fait en sorte, en tout cas au fédéral, on l'a beaucoup dit, mais dans les région également, que le coût total du cabinet de législature en législature coûte un peu moins cher. Mais alors certains ministres nous ont dit et ont eu l'honnêteté de nous dire qu'en réalité ils ne savent pas faire tourner leur cabinet, disent-ils, avec l'enveloppe qui leur reste. Et donc la ruse utilisée, c'est d'aller, au lieu de nommer ou d'aller chercher qui on veut et de lui de payer son salaire avec l'enveloppe du cabinet, et bien c'est évidemment de le détacher, où là on n'a que la prime dont Martine vient de parler, la petite prime de cabinet qui s'ajoute, à payer par le cabinet, mais tout le salaire reste payé par l'administration ou l'organisme public dont on est détaché. Et donc, ça permet d'avoir des cabinets plus grands à moindre coût. Je trouve que l'honnêteté intellectuelle devrait permettre, quand on fait le compte réel de ce que coûte un cabinet, d'évidemment ajouter ce coût du détachement dans une institution, parce qu'on crée un vide, évidemment. Quand on prend quelqu'un quelque part, il faut bien qu'on le remplace. Et donc, on se décharge d'une partie de ce coût budgétaire sur l'administration. À noter quand même que la Flandre a pris la décision en 2016, de mémoire, de ne plus faire ça. Donc, il continue évidemment à détacher des gens. On peut toujours aller chercher cette expertise, mais si on le fait, on doit rembourser intégralement l'administration ou l'organisme dont on détache. Et donc les Flamands ne détachent pas pour des raisons budgétaires, vu que le cabinet a, quoi qu'il arrive, l'obligation de rembourser le détachement, ce qui n'est pas le cas aux autres niveaux de pouvoir.
Peut-être une petite précision pour les entreprises publiques autonomes. En général, il y a une convention entre le cabinet ministériel et l'entreprise publique pour, quand on prend un travailleur détaché, convention qui fait qu'on rembourse l'entreprise du salaire payé. Ce qui a fait problème chez Bpost, mais qui est le cas dans d'autres entreprises aussi, c'est qu'il n'y avait pas cette convention et que donc la facturation restait du côté de Bpost. Et c'est un des éléments qui a fait problème.
C'est au sein des entreprises que le risque de conflit d'intérêts est le plus grand finalement ?
Oui, on peut en tout cas suspecter qu'effectivement quelqu'un qui travaille pour Bpost ou une autre entreprise publique est toujours payé par ce patron-là, quand il va dans un cabinet, ben, est-ce qu'il sert plus la politique de son ministre ou celle de son entreprise? En tout cas, c'est clair que la question peut se poser.
Dans tous les cas, à partir du moment où on a plusieurs casquettes, c'est toujours difficile d'avoir une loyauté à l'ensemble de ces casquettes. Et donc, ces questions se posent. Elles se posent au cas par cas, dossier par dossier. Ici, dans notre exercice, quand on vous dit qu'il y a 1052 personnes détachées, évidemment, on n'a pas pu faire l'analyse ligne par ligne de savoir dans quel cas ça posait plus problème que d'autres. Mais oui, voilà, la situation de Bpost était, à mon avis, l'exemple le plus flagrant d'un problème assez manifeste. Et juste, si je peux encore redire un petit chiffre, allez, bonus, sur cette histoire de paiement. On a fait un exercice aussi, on demandait au cabinet, est-ce que vous payez, donc est-ce que vous remboursez pour la personne que vous détachez ou pas. Au total, donc je vous disais, sur les 1052 personnes identifiées, dans 80% des cas, il n'y a pas de remboursement du cabinet. Donc, en gros, ces gens sont détachés de façon quasi gratuite, en précisant bien qu'en Flandre, c'est donc 0%. Hein. Jamais, ces gens ne sont mis à disposition gratuitement. Donc, si la moyenne nationale est de 80%, c'est vous dire que dans les autres entités, on est bien au-delà, vu que la Flandre tire cette moyenne vers le bas méchamment.
Près de la moitié de ces travailleurs mis à disposition gratuitement, on peut se demander à quel point l'administration peut encore fonctionner normalement ou elle se retrouve en fait dépouillée de ses collaborateurs.
C'est une question qu'on peut se poser. Certains services, on me citait l'exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ben, à certains endroits étaient un petit peu dépouillés. Par contre, on a pu interroger le patron du ministère, on dit SPF aujourd'hui, finance au fédéral. Bon, c'est un gros ministère, il a 20 500 personnes. Et donc, lui est beaucoup moins négatif. Il dit que ben, voilà, c'est d'abord intéressant d'avoir des travailleurs qui vont aussi vers d'autres horizons et ils vont par exemple aussi à la représentation permanente auprès de l'Union européenne ou de l'OCDE. Donc il y a des échanges aussi parfois entre administrations et que ces gens, quand ils retournent vers l'administration, eh bien, ils sont plus riches de leur expérience, ils ont une vision plus large et que c'est tout bénéfice finalement pour l'administration. Donc lui ne trouve pas que ce soit un énorme problème, mais encore une fois, il est à la tête d'une grosse administration, une administration qui aurait que quelques centaines de personnes, ça poserait évidemment davantage de problèmes.
En termes numérique, c'est clair que ce sont les administrations pures, hein, les SPF, services publics fédéraux, SPOE, services publics de Wallonie, qui sont les plus impactés par le phénomène. Donc je reprends, mais sur nos 1052 travailleurs détachés identifiés, il y en a deux tiers qui viennent de ces administrations en bonne et due forme pure et dure. Donc c'est là qu'on va aller chercher majoritairement. Reste une question un peu ouverte comme ça, mais qui participe au débat et qu'une experte interrogée par Martine soulève dans le dossier, c'est aussi de se dire, bah, alors qu'ils sont déjà dans l'administration, à quel point c'est vraiment utile de les prendre dans son cabinet? Pourquoi ne pas s'appuyer directement sur eux et sur l'administration comme on l'attend d'un des ministres? À quel point est-il nécessaire d'enlever des gens d'une administration avec lequel un cabinet doit travailler pour les prendre directement sous son autorité dans un cabinet?
Sachant qu'effectivement, dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme chez nous.
Justement, j'allais vous demander à quel point ce système est répandu en fait dans les pays autour de nous. Comment ça se passe ailleurs?
Dans les pays européens, il y a plusieurs systèmes, mais disons, on va en épingler deux. Il y a le système un peu comme en Belgique ou à la française ou en Italie où effectivement les ministres sont entourés comme ça de nombreux conseillers qui sont leurs conseillers de cabinet à eux. Et puis on a l'exemple danois ou aux Pays-Bas où c'est pas du tout le cas. Le ministre a vraiment un nombre de conseillers à lui qu'on compte sur les doigts de la main. Parfois c'est un ou trois et le reste c'est l'administration tout simplement. Et le ministre a même son bureau dans le bâtiment de l'administration. Il travaille totalement avec l'administration, qui donc travaille pour un ministre et puis un autre, quelles que soient les couleurs. Et le ministre garde, par exemple, un conseiller en communication, là, qui est personnel et qui n'est pas nécessairement de l'administration, qui peut l'être ou qui peut y aller par la suite. Mais donc, ce sont deux systèmes tout à fait différents. Et il faut savoir qu'en Belgique, en 2001, il y a eu une grosse réforme comme ça, la réforme Copernic, et l'idée était de supprimer les cabinets pour s'appuyer essentiellement sur l'administration. Et puis finalement, à la législature suivante, ça a déjà été oublié parce que ça n'a jamais vraiment été mis en place et manifestement, ça ne colle pas à la culture politique belge.
Et qu'est-ce qui fait que la Belgique n'arrive pas à se défaire de ses cabinets aussi forts ?
Donc il y a l'idée à la fois d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Et il faut savoir que chez nous, contrairement donc à d'autres pays qui travaillent beaucoup plus main dans la main avec l'administration, il y a une espèce de méfiance réciproque. Pas toujours, hein, bien entendu, et il y a des cas contraires, mais il y a quand même cette idée d'une méfiance réciproque. Le politique trouvant que l'administration n'est pas toujours assez réactive ou ne fait pas d'analyse politique, et l'administration trouvant que pour le politique tout est toujours urgent et puis qu'on leur demande des coups de main ponctuels sans savoir dans quel cadre ça va rentrer. Parfois juste aussi, me dit-on, parce qu'on veut contrer l'argument d'un autre ministre et qu'on veut que l'administration donne des arguments. Et finalement, c'est un travail qui, politiquement ou idéologiquement, sert à quelque chose, mais peut-être pas sur le fond ou le travail classique d'un fonctionnaire.
Merci Martine.
Avec plaisir Sandrine.
Merci Xavier.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.